Hein? J'ai pensé partager avec vous ce texte qui est dans Juges chapitre 6, où l'ange de l'Éternel apparut à Gédéon et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et puis, deux versets plus loin, l'Éternel se tourna vers Gédéon et dit, va avec cette force que tu as, et tu sauveras Israël de la main de Madian, n'est-ce pas moi qui t'envoie? C'est une situation dans le contexte de Gédéon assez désespérée pour Israël. Depuis 7 ans, Israël vit sous la servitude et le joug d'un ennemi, les Madianites. Et le livre des Juges retrace une époque où, on le sait, chacun fait ce qui lui semble bon. Ça veut dire c'est la pratique quotidienne du mal. Vous savez, on ne se préoccupe même pas de Dieu, même pas des autres. J'ai envie de le faire, je le fais. Et Dieu va permettre à l'ennemi d'Israël de le dominer, où ça? Sur la terre promise. Juges chapitre 6, verset 1, nous lisons, les Israélites firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante sur Israël ou contre Israël, et c'est à cause de Madian que les Israélites firent des tranchées dans les montagnes, des cavernes et des fortifications. Les Madianites, peuple nomade, vraiment opposé au peuple de Dieu, eh bien font des ravages en Israël. Et dans les jours de Gédéon, si il est dit que Dieu abandonne Israël, en réalité, c'est qu'Israël l'a abandonné bien avant, préférant adorer toutes sortes de créatures, s'éloignant du Créateur, mais surtout de leur Sauveur. Et c'est à cause de son propre péché qu'Israël vit une grande souffrance et une pauvreté au milieu d'une terre d'abondance. Alors, en suivant le texte, nous lisons que quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les Bédouins de l'Orient, et ils montaient contre lui. Ils campaient en face de lui et détruisaient la production du pays, ne laissant en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Et quand ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Et ils venaient dans le pays pour tout ravager. Israël fut ainsi appauvri par Madian, et les Israélites crièrent à l'Éternel. Dieu n'est pas un Dieu rancunier, hein. Quand les choses vont mal, qu'on s'entête, Dieu laisse faire. Et quand l'homme crie, eh bien, dans son amour, sa miséricorde, Dieu intervient. Et c'est cette intervention qui va nous intéresser. Lorsque les Israélites ont crié à l'Éternel, l'Éternel, dans sa bonté, leur envoya un libérateur. Ils crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, et l'Éternel leur envoya un prophète. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur Dieu, c'est moi qui vous ai fait monter du pays d'Égypte, de la maison de la servitude, qui vous ai délivré de la main des Égyptiens, de la main de tous vos oppresseurs, je les ai chassés. Et je vous l'ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu, vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez pas écouté ma voix. Alors Dieu intervient, c'est merveilleux. Au lieu de laisser l'homme dans son problème, il intervient. Et qui va-t-il utiliser? Un moyen que nous connaissons. Il va utiliser un prophète. Et l'Ancien Testament est rempli de prophètes, de messagers qui viennent délivrer un message de la part de Dieu. Et c'est souvent un message qui ne va pas forcément concerner l'avenir. Ce message concerne le présent. Le présent est simple. Vous n'avez pas écouté ma voix. Votre situation est compréhensible. Parce que vous vous êtes entêté, dit le prophète. Alors le messager, bien évidemment, transmet au peuple cette vérité que le problème ne vient pas de Dieu. Aujourd'hui, on cherche un responsable, hein. On monte, et puis au plus haut du sommet, il y a Dieu. Ah, c'est lui le responsable. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Dieu, non seulement envoie un prophète, mais il va venir en personne. Puis, nous dit le verset 11, l'ange de l'Éternel vint et s'assit sous le térébinthe d'Ophra. L'ange de l'Éternel. Alors en hébreu, l'ange, c'est celui qui représente. L'ange de l'Éternel, nous le savons, c'est Jésus. Il représente ce Dieu invisible. Jésus, Dieu venu en personne parmi les hommes. Hébreu 1 nous dit, après avoir de plusieurs manières parlé à nos pères, eh bien, par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils. Il n'envoie pas seulement des ambassadeurs, il n'envoie pas seulement des messagers, mais Dieu décide de venir lui-même. Alors si ça, ce n'est pas de la miséricorde, je ne sais pas ce que c'est. L'ange de l'Éternel est assis dans une attitude paisible. Vous savez, rien n'affole Dieu, hein. Nous, parfois, on est affolés, on dit que peut-être Dieu est dépassé, mais absolument rien ne le dépasse. D'ailleurs, Jésus est à la droite du Père, il est debout, assis. Il est assis. Il est dans la paix. Ici, l'ange de l'Éternel est dans la paix, comme quand il s'est révélé aux disciples dans cette chambre haute, après la résurrection. Quels sont les premiers mots de Jésus ? Que la paix soit avec vous. J'aime cette vérité qu'auprès de Dieu se trouve la paix. Et ce qui est surprenant, c'est que cet ange de l'Éternel va appeler Gédéon. Alors Gédéon, en vérité, il a la trouille, hein. Et que dit l'ange de l'Éternel ? L'ange de l'Éternel apparut à Gédéon et dit, l'Éternel est avec toi, trouillard. Ah non. L'Éternel est avec toi, jambe de peu de foi. Non, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Alors moi je suis surpris, et je pense que Gédéon aussi a dû être surpris. Gédéon est en train de mettre des vivres, de travailler en cachette pour sa survie. Comment cet ange de Dieu peut-il dire vaillant héros? Parce que Gédéon est plutôt tourmenté par la situation de son époque, comme on peut l'être aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, quand on parle avec quelqu'un, c'est plus direct, hein. Comment cela se fait-il que le mal règne dans ce monde? Hein, comme cette pandémie, comment expliquer cela? Où est Dieu? Pourquoi tant de souffrances? Peut-être que ces questions, nous nous sommes aussi. Nous sommes posés un jour. Ou peut-être que nous sommes en train de nous poser. Ici, l'ange de l'Éternel apparut à Gédéon. Et Gédéon réplique, il ne l'a pas reconnu. Il dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, comme tu le dis, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Et Gédéon envoie l'argument. Où sont tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés? Où sont les prodiges de Dieu? Que fait Dieu? Alors, c'est pas un manque de foi de la part de Gédéon, hein. Il n'est pas incrédule, hein. C'est vraiment quelqu'un qui gamberge. Il se dit, voilà l'enseignement. Et voilà que rien ne se passe. Dieu a-t-il oublié son peuple? Dieu a-t-il oublié le monde actuellement? Où les problèmes s'amplifient, où l'isolement progresse, où les rendez-vous médicaux deviennent tellement problématiques, où le moral s'effondre comme un château de cartes. Alors je vous avoue qu'en début d'année, j'ai connu autour de moi beaucoup de baisses de morale. Surtout cette année. Le Seigneur est avec nous, alléluia, mais... Hein? Période où nous ne pouvons plus échanger. On ne peut plus vivre comme avant. On ne peut plus se rencontrer normalement. Et on n'arrive même plus à se projeter sereinement. Qu'allons-nous faire dans un mois, deux mois? On avait prévu des petits déjeuners, des rencontres, du vin chaud. On va mettre ça sur vidéoprojecteur. On va dire, oh, le vin chaud, oh, les petits déjeuners, etc. en église. On se sent vulnérable. Les prodiges, le Dieu des prodiges, serait-il dépassé par ce virus? Et Gédéon n'est pas bête. Il connaît bien l'histoire de son peuple, du peuple d'Israël. L'Éternel, Dieu des prodiges, c'est lui qui nous a fait monter du pays hors d'Égypte. C'est ce qu'on nous a raconté. Et maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. Où est ce Dieu? Parfois, nous cherchons Dieu au lointain, alors qu'il est, tout près, juste là. Comme les femmes, vous savez, quand elles sont au jardin où Jésus a été enterré. Hein, où avez-vous mis son corps? Où as-tu mis son corps? Dis-le-moi. Elle dit ça à Jésus, mais je suis là. Des fois, nous cherchons au loin des solutions, alors que ce Dieu des prodiges se trouve à côté, à proximité de Gédéon. L'Éternel, c'est lui qui parle. Il se tourna vers Gédéon et lui dit, va avec la force que tu as. Et toi, Gédéon, tu sauveras Israël de la main des Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Donc, nous voyons bien que cet ange de l'Éternel, c'est l'Éternel qui a pris notre chair. Voilà un ordre. Va. Ça suffit pas. Et une promesse. Je suis avec toi. Gédéon est réaliste. Il sait très bien qu'il est loin d'être ce vaillant héros. Alors Gédéon, bien, n'a pas reconnu que c'est Dieu qui lui parle. Gédéon répond, ah mon Seigneur, avec quoi sauverai-je Israël? Voici que ma parenté est la plus pauvre à Manassée et que je suis le plus petit dans la maison de mon père. Et l'Éternel lui dit, mais moi je serai avec toi. Alors c'est extraordinaire de voir que Dieu ne fait pas de reproche à un homme qui vit pour sa survie. Il est extraordinaire de voir que Dieu ne fait pas un reproche à un homme qui se sait sans force face à un ennemi puissant. Je suis émerveillé de découvrir que même le roi David a affirmé que ses ennemis étaient plus forts que lui. Dans le psaume 142, il dit, « Seigneur, sois attentif à mon cri. Je suis affaibli, délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. » David n'a pas sous sa chemise la panoplie de Superman. Il sait très bien que ses ennemis sont plus forts que lui. Et le Seigneur, j'ai l'impression qu'il approuve cette attitude. Dieu aime lorsque nous sentons que nous n'avons pas toutes les capacités. Rappelez-vous de l'église de Philadelphie à qui Dieu dit « Je connais tes œuvres et j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer ». Alors, vous savez, quand on essaie d'ouvrir une porte qui a une résistance derrière, plus la résistance est forte et moins on y arrive, hein. Elle est dure, mais Dieu dit, cette porte-là, personne n'y touchera. Pourquoi? Parce que tu es fort? Ben non. Parce que tu as peu de puissance. Tu as gardé ma parole. Et que tu n'as pas renié mon nom. Alors, Gédéon se sait faible. Et Dieu le considère comme un vaillant héros. Mon frère, ma sœur, quand tu te sens écrasé, avec tes propres regards, peut-être que Dieu, certainement qu'il ne nous voit pas pareil. Nous, on s'en dépassait, mais Dieu nous voit comme Gédéon, un vaillant héros. En fait, Dieu veut employer Gédéon avec ses faibles forces. Il ne dit pas à Gédéon, deviens fort et tu vas devenir mon instrument. Alors, Dieu a promis à Gédéon la victoire. Mais il y a des conditions à cette victoire. La première condition, c'est la purification. La promesse et l'ordre ne suffisent pas. Il faut que Gédéon se laisse travailler, façonner, purifier par Dieu. Que se passe-t-il? Eh bien, Gédéon va proposer de faire un sacrifice, de partager un sacrifice avec celui qu'il considère comme un homme, un prophète. Si j'ai obtenu ta faveur, en gros, si ton message est de Dieu, eh bien, je te propose quelque chose. Donne-moi un signe que c'est toi qui parles. Ne t'éloigne pas d'ici, je t'en prie, jusqu'à ce que je revienne auprès de toi et que j'apporte ici mon offrande. Alors, il est dit que Gédéon alla et prépara un chevreau et fit avec un épha de farine, c'est-à-dire une mesure de farine, des pains sans levain. C'est bien, on sait qu'il sait cuisiner. Hein. Je ne sais pas si tous les hommes savent cuisiner comme Gédéon, mais bon. Hein. Il mit la chair dans une corbeille et le jus dans un pot et lui apporta sous le térébinthe et les présenta. Et l'ange de Dieu lui dit, « Prends la chair et les pains sans levain et dépose-le sur ce rocher et répands le jus. » Et Gédéon accomplit. Il obéit à ce que cet homme lui demande. Il est évident qu'en préparant ce rituel, il n'avait pas conscience que Dieu était là, que Dieu est là. Le psalmiste dit, « Qui est semblable à toi ?» Honnêtement, qui est semblable à Dieu ? Qu'y a-t-il de plus grand que Dieu ? Personne. Pourquoi l'apôtre Paul dit, « Si lui nous fait une promesse, il accomplira, il n'y a pas plus grand que lui. » Alors, le texte nous dit que l'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton et il toucha donc cette offrande et voici que du rocher monta un feu et consomma l'offrande que Gédéon a apportée. Alors Gédéon va s'écrier « Malheur à moi, Seigneur éternel !» Et là, il a compris. « Car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Mon frère, ma sœur, Dieu ne veut pas détruire Gédéon. Dieu veut seulement travailler cette réalité, vérité dans le cœur de Gédéon que nous ne pouvons pas nous présenter comme ça devant Dieu. Il est saint, trois fois saint. Même Ésaïe, chapitre 6, quand il a vu les séraphins autour de Dieu, la gloire de Dieu, il s'est écrié « Malheur à moi ». Parfois, peut-être que nous avons besoin de nous rappeler que ce Dieu-là est un Dieu tellement hors norme que le monde entier ne serait que la poussière telle qu'elle est déposée sur une table, pas plus. Malheur à moi. Et Dieu va rappeler à Gédéon qui a reconnu son besoin d'être clean devant Dieu, il lui rappelle, sois en paix. Quand nous reconnaissons la grandeur de Dieu, la réponse de Dieu c'est, sois en paix. Quand nous reconnaissons la grandeur de l'homme, la réponse de l'homme est tout autre, de Dieu est tout autre. Tu ne mourras pas. Et Gédéon va bâtir un autel qu'il va appeler Adonai Shalom. Dieu de paix, il y a un chant, hein? Adonai Shalom, Dieu de paix pour tous les hommes. La première condition de la victoire, c'est cette purification. Combien de fois venons-nous à Dieu pour lui demander pardon, nous laisser purifier par lui. Le pardon pour notre vie quotidienne est indispensable dans la famille, dans nos relations, dans notre cœur avec Dieu. Indispensable pour encore avancer cette année. L'autre condition préalable à la victoire, c'est la consécration. Dieu nous appelle à régler les choses. Vous savez, on ne peut pas vivre une vie chrétienne et servir Dieu n'importe comment. Il y en a un qui a fait une triste expérience, c'est Moïse. Qu'est-il arrivé à Moïse quand il a accepté, après Exode 3, de suivre le Seigneur, d'aller en Égypte? sur le chemin qui le menait depuis Madian jusqu'en Égypte. Qu'est-il arrivé? Vous vous rappelez? Il a fait un coup de fièvre, Moïse. Hein? Au verset 24, il est dit, « Pendant le voyage dans un lieu où Moïse passait la nuit, l'Éternel vint à sa rencontre et voulut le faire mourir. » C'est bizarre, hein? Comment ça se fait que Dieu appelle quelqu'un et lui dit, « Écoute, tu vas y aller. » Et en chemin, alors qu'il a négocié, hein? Et en chemin, c'est Dieu qui a négocié, en chemin, Dieu veut faire mourir Moïse. C'est incompréhensible. En réalité, mon frère, ma sœur, devant Dieu, quand nous décidons de le suivre, nous avons besoin de régler des choses avant. Moïse avait négligé la circoncision de son fils. Et Dieu voulait que Moïse soit en règle avec lui. Nous ne pouvons pas servir, nous ne pouvons pas être consacrés n'importe comment. Il y a des choses certainement douloureuses que nous sommes appelés à régler. Alors des fois, c'est le Saint-Esprit qui vient nous titiller. Nous sommes tranquilles, nous pensons l'être, hein, et il vient, ah, là ça ne va pas. Là, il faut régler quelque chose. Gédéon doit faire du ménage aussi dans sa vie. Se séparer de tout ce qui prend la place de Dieu. Moïse, c'est Séphora, sa femme, qui a réglé ce problème à la place de Moïse. Elle a circoncis l'enfant, elle a appelé époux de sang. Hein, c'est terrible, hein? Et là, Gédéon, eh bien, dans la même nuit, il est dit que l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, démolis l'autel de Baal qui est à ton père et abat le poteau d'Achéra qui est au-dessus. » Il y a certainement des choses que nous devons proscrire de nos vies pour avancer dans la victoire avec Dieu. Avons-nous des autels dans nos cœurs que nous chérissons et qui nous éloignent de Dieu? Avons-nous quelque chose qui règne dans notre vie, en dehors de lui? Avons-nous du ménage à faire? Jésus a dit que nul ne peut servir de maître. Pourquoi? Parce qu'automatiquement, il va aimer l'un et haïr l'autre. Et c'est pourquoi Jésus dit, on ne peut pas aimer Dieu et maman. Matthieu chapitre 6, verset 24. Alors Gédéon fait un choix. Le choix de ne pas laisser les idoles de son père. Il aurait pu prendre ça comme un héritage, hein. Ah, ça vient de nos pères, hein. On garde ce qui vient de nos pères. Oui. Eh bien, Gédéon a décidé de détruire les idoles de son père. Se détacher d'eux pour mieux s'attacher à. Voilà la démarche de Gédéon. Que Dieu devienne notre priorité. Qu'il devienne la personne que nous aimons par-dessus tout. Et c'est ainsi que Gédéon va être revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Et il sera prêt pour le jour du combat. Alors nous avons dit qu'il y avait de la purification, besoin de consécration, mais aussi besoin de persévérer par la foi. Lorsque Gédéon va convoquer le peuple pour aller à la guerre, 32 000 hommes vont se présenter. 32 000. Alors c'est très surprenant parce que on aurait pu dire c'est merveilleux, il en faut plus. Mais Dieu a un autre plan pour Gédéon. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as est assez nombreux. Ah bon? 32 000, mais c'est rien. Pour que je livre Madian entre ses mains. Israël pourrait en tirer gloire contre moi et dire c'est ma main qui m'a sauvé. Dieu va être clair. Il va faire un premier tri. Alors le premier tri, c'est que tous ceux qui ont peur retournent. Hein? Vous savez, c'est tous ceux qui sont volontaires font un pas en avant. Et en fait, ceux qui ne sont pas volontaires font un pas en arrière. Il en reste un en avant qui n'était pas volontaire, mais qui n'a pas écouté les autres. Hein? Voilà, Dieu dit que tous ceux qui ont peur retournent chez eux. Et combien il en retourne sur 32 000? Les statistiques sont décevantes. 70% de pertes. 22 000 hommes disent on a peur. je comprends Gédéon, hein. Et qu'est-ce qu'on fait? Dieu dit, c'est bon, qu'ils s'en retournent chez eux. Ah, il en reste 10 000. Et vous connaissez l'histoire, hein. Sur les 10 000, Dieu va faire un choix. Il va dire, c'est trop, 10 000. Ah bon? En général, on négocie vers le haut, non? Enfin, je sais pas, là, il négocie vers le bas. Bon, 10 000 est trop. Alors, on va réduire encore les effectifs. On va prendre ceux qui vont laver l'eau. Alors, j'imagine la tête de Gédéon quand il entend ça. Combien va-t-il en rester? Il reste que 3% des effectifs. Il n'en reste que 300 sur 10 000. C'est pas beaucoup, hein? Alors, comment interpréter ce choix de ceux qui lavent l'eau? Alors, certains disent que c'est les plus rustres qui ont été choisis pour que la gloire revienne à l'éternel, ou ceux qui sont inéduqués. Et d'autres disent non, au contraire, ce sont les plus convaincus par la bataille. Ils n'ont tellement pas le temps de s'abaisser qu'ils vont laver l'eau. Alors, je ne sais pas, hein? Difficile à dire. Je vous laisserai discuter de ça à midi, à table. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Dieu est clair. Je ne veux pas qu'Israël puisse dire, c'est par ma main que j'ai obtenu la victoire. Parce que Dieu veut que cette victoire reste la sienne. Alors, nous connaissons l'histoire. Alors, si vous avez envie de vous pencher sur ces chapitres 6 et 7 aujourd'hui, c'est vraiment une lecture que je vous propose, en plus des lectures que Étienne aussi vous a proposées ce matin. Et bien sûr, ils vont se regrouper. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils n'ont ni armes, ils n'ont aucune stratégie, si ce n'est que ils vont mettre des torches dans un vase, hein, et dans la nuit, ils vont faire éclater ce vase pour faire peur aux Madianites. C'est une très rude épreuve de foi pour Gédéon. Des fois, Dieu nous demande quelque chose qui nous paraît impossible. Nous, nous voyons grand. Si nous étions plus, nous pourrions. Mais Dieu dit non, je veux moins encore. Vous savez, chaque nouvelle année, chaque nouveau mois ou semaine va se présenter un combat pour notre foi. C'est ça l'histoire de Gédéon. Dans un domaine ou un autre de nos vies, et en 2022, les combats, mon frère, ma sœur, ne manqueront pas. Alors, on a pu voir qu'il y a la promesse de Dieu qui est là. Il y a l'ordre aussi de Dieu qui nous dit « va ». Mais j'aimerais vous laisser 3 petites pistes de réflexion, de méditation. La première, c'est qu'en 2022, les Madianites seront encore là. Oui, ils seront là, présents. Les Madianites, vous savez, c'est tous ces soucis qui nous contrarient, toutes ces préoccupations, ces contrariétés, ces frustrations, tous ces états que nous avons laissés dominer sur nous. Ils nous font tellement peur, ces pensées que nous pouvons avoir. Nous ferions bien comme Gédéon de ne pas nous attarder sur ces Madianites. Vous savez, il a focalisé sur les Madianites et il n'a plus vu le Seigneur. Nous devons reconnaître qu'ils sont nos ennemis, que ces choses-là en nous nous empoisonnent et nous rendent notre vie imbuvable. Mais nous devons ne pas nous y attarder davantage. Choisissons, alors c'est un titre, vous pouvez voir Bernard après, il vous dira, hein, il proposera un livre Bernard sur la reconnaissance. Choisissons, c'est pas celle qui est dite, c'est MB, Maison de la Bible. Voilà, merci pour la pub, hein. On fera 10% après, on verra, hein. Choisissons de penser plus comme Dieu que comme de simples hommes. Choisissons de mettre notre confiance en celui qui peut, avec si peu, faire beaucoup. Les disciples ont amené pour nourrir 5 000 hommes, 5 pains et 2 poissons. Et le Seigneur l'a fait. Préoccupons-nous plutôt de la gloire de Dieu que de ce qui nous semble nous détruire. Je crois qu'il y a une leçon ici que moi j'ai envie d'appliquer tous les jours. Seigneur, je veux me préoccuper plus de toi que de ce qui me préoccupe. et qui me ronge. Gédéon pensait que l'affaire, la victoire était une affaire de puissance et de grand nombre de guerriers. Mais la pensée de Dieu était à l'opposé de la pensée de Gédéon. Et tout naturellement, il est évident qu'il dit que je peux rien faire. Mais sa foi a été démontrée par l'obéissance, elle a été récompensée. Mais toi, va avec la force que tu as. Ne cherche pas d'être plus fort, cherche à être plus soumis. La deuxième des choses, c'est la victoire est accordée à ceux qui se savent humbles. C'est une loi biblique, plutôt qu'à ceux qui se sentent forts. On ne peut pas sortir de cette histoire que Gédéon était un homme magnifique et courageux et voilà, va-t'en guerre. Non, 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 pas du tout. Hein? On ressort de cette histoire que la victoire appartient au Seigneur. Le héros de cette histoire, c'est l'Éternel. Comme il est le héros du salut des hommes. Et vous savez comment fonctionne le salut? De la même manière. Le salut que Dieu offre aux hommes est le salut pour ceux qui se savent perdus, désespérément perdus et impuissants pour se sauver eux-mêmes. Ceci était vrai au temps d'Israël en Égypte. C'est quand ils ont commencé à se sentir vraiment dominés à souffrir qu'ils crièrent à l'Éternel. Dieu les a délivrés de l'esclavage. Ceci est encore vrai aujourd'hui. Dieu veut délivrer l'homme de son état de perdition, homme qui est esclave du péché, lorsqu'il se tourne vers lui et qui lui dit « J'ai besoin de toi ». C'est cela. Dieu accorde sa délivrance à ceux qui se savent humbles. Et si notre prière a été « Seigneur, je veux faire la guerre à mon orgueil », je peux vous garantir que Dieu entend ce type de prière. Et quand il s'y attelle, ça fait mal. Ouais. Dieu aime les cœurs humbles. Jésus est venu pour sauver ceux qui se savent malades, non pas pour ceux qui pensent être bien portants. Il est, on l'a chanté, le sauveur parfait. Il a porté la peine, les peines que nous méritions. Il a souffert à notre place, pour nous accorder la vie. As-tu reconnu ton esclavage et ton péché, ton état d'impuissance? As-tu crié à Jésus? Alors si ça a été le cas, il est le sauveur parfait. Israël pourrait tirer de la gloire, mais Dieu voulait que la gloire lui appartienne jusqu'à maintenant, il le veut ainsi. Et le troisième et dernier point de méditation, c'est que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans cette histoire, beaucoup de choses se passent la nuit. Il est dit, alors on va essayer de retrouver, voilà. Il est dit que Gédéon prit 10 hommes avec lui et fit ce que l'Éternel lui a dit. Comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il ne le fit pas de jour, il le fit de nuit. Ah. Et puis, lors de l'attaque, c'est peu avant minuit, hein, c'est écrit là, peu avant minuit, au commencement de la veille, du milieu de la nuit, que l'ordre a été donné pour attaquer Madian. Un pasteur avait récemment écrit que son église traverse une période difficile, très difficile, hein, une grande église avec voilà beaucoup de plans pour l'année. Et depuis 2020, c'était très compliqué. Et il dit ceci, une certaine nombre des personnes de notre église ont perdu leur emploi, d'autres ont des entreprises qui souffrent aussi. Le budget de l'église est actuellement inférieur à ce que nous voyons depuis très longtemps. Et sa conclusion est, je me demande si Dieu ne réduit pas nos ressources afin que nous puissions plus compter sur lui. Ouais. C'est possible. Tout comme au temps de Gédéon où Dieu a réduit le nombre de guerriers afin qu'ils comptent sur lui. Nous sommes engagés dans un combat spirituel et nous sommes de nuit. La nuit est avancée. Romain nous dit, la nuit est avancée et le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. C'est un moment important de recevoir le dessin des enfants là. Hein. Vraiment. Ils ont fait. C'est beau ce qu'il a fait? Super. Merci Seigneur. Dépouillons-nous donc de nos pensées qui nous plongent dans cette nuit. Venons au Seigneur parce qu'il fait nuit. Et vous savez ce que ça veut dire, minuit? C'est la victoire de Jésus, le retour de Jésus qui va avoir lieu bientôt. Très bientôt. La nuit est avancée. Et j'ai l'impression que, vous savez, quand il dit vaillant héros, j'ai l'impression que à chaque fois que nous faisons un pas de foi dans le sens de Dieu, nous sommes considérés comme un vaillant héros. Mon frère, ma sœur, la victoire totale n'est pas encore arrivée, mais nous y allons. Nous sommes en chemin. Et nous devrions être encouragés de voir qu'avec si peu, Dieu a donné une victoire éclatante à son peuple. La nuit est avancée. La victoire finale arrive. Pendant ce temps-là, et c'est ma conclusion, eh bien, pendant ce temps-là, ce qui est merveilleux, c'est que Gédéon, vous rappelez, il avait érigé un autel. Adonai Shalom. Sois en paix, dit l'Éternel, et sans crainte. Dans un pays d'Israël troublé par l'ennemi, il y avait désormais un autel qui rappelait que Dieu était un Dieu de paix. Autour de nous, il y aura cette année-là des guerres de toutes sortes. Mais nous savons que Dieu reste un Dieu de paix. Il nous gardera toujours. Bien souvent, nous disons « j'aurai la paix » ou « j'aurai la tranquillité » si je finissais cela, si, etc., etc., dans nos projets. Mais en réalité, nous donnons aux circonstances la possibilité, l'autorité de nous donner la paix. Alors que la paix, elle est là, avec le Seigneur. J'aimerais te laisser un verset qui est celui de l'apôtre Paul. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse d'un peu de joie, d'un peu de paix. Non, de toute joie, de toute paix dans la foi. Pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. J'aimerais que nous puissions tous redire ce verset. Vous êtes d'accord ?